Le bilan s'alourdit d'heure en heure après le séisme qui a frappé le Maroc hier. Une Calédonienne qui est en vacances à Marrakech a ressenti la forte secousse. Vous entendrez son témoignage dès le début de ce journal. Gérald Darmanin s'exprime dans la presse après les discussions avec les délégations politiques à Paris. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dévoile les contours du fameux document martyr. Mathilda Lelon, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2023, elle a été sacrée hier soir, 27 ans après sa mère, Carole Roudeillac. Le public a fait le déplacement en nombre à Farino à l'occasion de la 36e édition de la Fête du Vert de Bancoul. Les concours ont animé la place de la mairie dès ce matin. Et puis en rugby, les Anglais rassurent pour leur entrée dans le mondial. Le 15 de la Rose a battu l'Argentine après avoir joué quasiment l'intégralité du match en infériorité numérique. Bonjour à tous, bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. La barre des 2000 morts est franchie. Le dernier bilan du séisme qui a secoué le Maroc hier fait état de 2012 personnes décédées. Plus de 2000 personnes sont également blessées, dont 1400 dans un état grave. Parmi les victimes, on déplore notamment le décès d'un homme de nationalité française près d'Agadir des suites d'un malaise cardiaque. Dans la gestion de cette crise, le roi du Maroc, Mohamed VI, n'est pas apparu publiquement, mais son cabinet a annoncé qu'il a décrété 3 jours de deuil national. De nombreux appels aux dons ont été lancés, notamment par la Croix-Rouge, l'association qui précise que le Maroc aura besoin d'aide pour des années. Une Calédonienne, je vous le disais, est actuellement présente sur place. Carole Kiravec est à Marrakech pour des vacances. Elle a vécu le tremblement de terre alors qu'elle était dans sa chambre d'hôtel située dans la Médina, la vieille ville de Marrakech. Nous avons pu la joindre ce matin au Maroc. Écoutez son témoignage.
Mon riad est situé en plein centre de la Médina, qui est le quartier qui a le plus souffert du séisme. Vers 23h, on a tous senti une forte secousse qui a été très très longue, qui a duré à peu près une minute, à tel point que moi j'ai été projetée sur mon lit. J'ai pas tout de suite percuté qu'on avait affaire à un tremblement de terre, mais en tout cas c'était extrêmement violent. Dans ma chambre, j'ai eu quelques petites placos qui me sont tombées sur la tête, avec des objets voilà, qui ont bougé un petit peu partout. Mais on a une chance inouïe de ne pas être blessés, contrairement aux personnes qui étaient à l'extérieur, qui eux ont vu complètement leur maison détruite.
Après la secousse, tout le monde a rejoint la place centrale. La Calédonienne et les touristes présents n'ont pu regagner leur chambre que tard dans la nuit, à leur risque et péril, leur a-t-on précisé. Sur place, les opérations de secours ont du mal à s'organiser, car les accès sont compliqués, nous a dit Carole Kiravec.
Les gens étaient catastrophés, hein. Ça partait dans tous les sens. Moi-même, j'ai vu des femmes s'évanouir dans la rue. Il y avait des bébés qui pleuraient, les enfants qui hurlaient, les motocyclettes qui allaient partout, dans tous les sens. Et surtout, de par les éboulements, les accès dans la Médina ont été obstrués. Donc, ça n'a pas permis aux secours d'intervenir. Donc, nous, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens dont on disposait, de dispenser les soins de premier secours. Hein. Donc moi, au bout de ma ruelle, il y a une dame qui avait le crâne fracassé puisqu'il y a un parpaing qui lui est tombé sur la tête. Elle avait également une fracture ouverte au doigt. Donc on a essayé avec les gens de l'hôtel de faire ce qu'on pouvait. Mais en tout cas, les secours ont tardé. Alors c'est pas de leur faute. Hein. Faut dire que bon, la Médina est située d'une manière un petit peu particulière qui fait que si les accès sont obstrués, c'est déjà très très étroit, les ambulances, elles ne peuvent pas intervenir. Donc ce sont des scooters qui sont venus à la rescousse pour évacuer donc, les blessés vers la place centrale où étaient disposées les ambulances, parce qu'on a quand même la chance d'avoir le poste de police qui est très très près avec la sécurité civile, et donc ils ont fait le choix de centraliser tous les secours sur cette place.
Carole Kiravec, une Calédonienne présente lors du séisme au Maroc que nous avons contactée sur place ce matin. Elle doit quitter le pays demain avant de rentrer sur le territoire en milieu de semaine. Dans le reste de l'actualité ce dimanche, nous avons décidé de proposer un projet pour la Nouvelle-Calédonie au nom de l'État, car personne ne le proposait. C'est ce que déclare le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer dans une interview au journal Le Monde. Gérald Darmanin s'exprime à l'issue d'une semaine de rencontres à Paris et il dévoile les grandes lignes du projet qui a été soumis aux délégations calédoniennes C'est le fameux document martyr qui était jusque-là resté confidentiel, Michael Juneski.
Ce projet prévoit d'abord une modernisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie, indique le ministre. Nous proposons, dit-il, des changements dans la répartition des compétences entre les trois provinces et le gouvernement. Nous proposons que le président du gouvernement soit élu directement par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et que le nombre d'élus des provinces au Congrès réponde aux évolutions démographiques. Il précise ensuite que le projet réaffirme que la Nouvelle-Calédonie, restée française, garde un titre spécifique dans la Constitution et que l'on ne touchera pas à l'accord de Nouméa de 1998 qui prévoit une citoyenneté néo-calédonienne dans la citoyenneté française ainsi que ses autres acquis. Le projet propose un accord pour les élections provinciales de 2024 en dégelant le corps électoral dans certaines conditions plus conformes aux règles démocratiques générales. Sur ce point, Gérald Darmanin n'en dit pas plus. Concernant le droit à l'autodétermination, il est réaffirmé, mais le document ne propose plus de date ou de durée pour l'atteindre. C'est une révolution, déclare Gérald Darmanin. Il n'y a plus d'épée de Damoclès. Le document propose en effet trois conditions à discuter pour déclencher ce droit à l'autodétermination. L'éventuel futur projet serait proposé par les Calédoniens eux-mêmes au lieu d'une question binaire oui ou non à l'indépendance. Les deux tiers du Congrès devraient le voter et un droit de pétition pourrait être créé, accessible à partir de 50% du corps électoral. C'est de toute façon une base de départ ouverte à la discussion. Concernant enfin le calendrier, Gérald Darmanin indique que la réforme constitutionnelle interviendrait en février-mars. Elle sera suivie d'un référendum de projet, d'une loi organique adoptée au Parlement et des élections provinciales d'ici à la fin 2024. Le ministre est, par ailleurs, interrogé sur l'attitude du FLNKS, qui a précisé qu'il ne validera les points du projet qu'une fois négocié par son congrès en novembre. « Nous respectons profondément les indépendantistes et nous respectons leurs demandes et leur calendrier », répond Gérald Darmanin, qui confirme qu'il reviendra à Nouméa fin octobre avec Philippe Vigier, le ministre chargé des Outre-mer, pour tenter de finaliser l'accord. Il dit « compter sur la grande responsabilité face à l'histoire des indépendantistes et des non-indépendantistes ».
Gérald Darmanin qui indique également que le gouvernement essaie de régler les grands problèmes de la Nouvelle-Calédonie, le réchauffement climatique, le nickel ou encore l'équilibre des comptes. L'État va aider la Nouvelle-Calédonie à terminer ses exercices budgétaires, annonce le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et puis en ce qui concerne les délégations politiques présentes à Paris, elles seront de retour en Calédonie dès ce soir ou demain matin.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
En bref, Victor Gauny veut effacer les tensions au Sénat coutumier et aller de l'avant. Le sénateur de l'RIAI a été reconduit hier au poste de président après le 23e congrès du Pays Kanak qui se tenait depuis vendredi au Sénat coutumier. Il avait pris la tête de l'institution coutumière au pied levé en début d'année pour remplacer Hugues Vémavé qui avait été destitué après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Une coutume a été faite avec l'air Otmawap, l'air du président destitué pour apaiser les tensions. Et puis c'est le procureur de la République Yves Dupas qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a été interrogé sur la délinquance en Nouvelle-Calédonie et sur la réponse pénale apportée par le parquet, mais aussi sur l'évolution des crimes et délits et sur les moyens de la justice. Une interview du procureur de la République qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible dès maintenant en audio et vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Mathilda Lelon a été couronnée hier soir lors de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Sept candidates étaient en lice hier soir au village en centre-ville de Nouméa pour cette grande soirée placée sous le signe des comédies musicales. Mathilda Lelon succède ainsi à Océane Le Goff. Elle est élue 27 ans après sa maman, Carole Roudeillac, élue Miss Calédonie en 1996. C'est elle d'ailleurs qui l'a encouragée à se présenter. Écoutez la réaction de la nouvelle reine de beauté.
Miss Calédonie 2023
numéro
2 et restera la numéro 3.
Ouais. Non, non. C'est
quelque chose de très émouvant et si j'en suis là, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a encouragée à me présenter et depuis que je suis toute petite, elle m'en parle comme une expérience unique. C'est vrai qu'au moment où je vous dis ça, je me revois essayer son écharpe et sa couronne dans le salon et rêver de Miss. C'est une immense satisfaction et c'était un challenge d'acceptation de moi aussi cette aventure et je crois qu'aujourd'hui je me suis acceptée.
Carole Roudeillac admet que sa fille a toujours baigné dans ce monde des Miss. Elle a enfin pu réaliser son rêve après ses études. Ce sacre est donc une grande fierté pour Carole Roudeillac.
Je suis vraiment dans l'émotion et oui, bah, bien sûr que je suis fière. Et surtout, bah, je suis très heureuse pour elle. Elle va pouvoir soutenir les animaux comme elle le souhaite et d'autres causes qui lui tiennent à cœur. On prend ce qu'il y a à prendre et puis quoi qu'il arrive, bah, ce sera bien. Et c'est plutôt ce discours-là qu'on avait à la maison. C'est quoi qu'il arrive, c'est très bien.
Stella Levanao, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, salue l'élection de Mathilda Lelon et elle espère qu'elle ira loin au concours Miss France.
Miss Nouvelle-Calédonie 2023, notre chère Mathilda Lelon, eh bien, je dirais que c'est une très belle histoire de famille. Et sa maman est très heureuse. Mathilda, c'est une jeune femme qui est brillante. Et elle a été, je dirais, formée depuis sa naissance. Il faut continuer à la soutenir et la tirer le plus haut possible. Parce que ça fait longtemps qu'on n'ait pas été dans le top 6 de Miss France. Et j'aimerais tellement.
Mathilda Lelon est professeure de SVT de 24 ans, pense déjà à Miss France qui aura lieu le 17 décembre prochain pour nous à Dijon. À noter que la première dauphine est Camélia Amundi, la deuxième dauphine Emma Grousset et la troisième dauphine Cassandra Parilla Montpellat. On notera que le jury était présidé cette année par l'historienne Christiane Terrier. Il est midi 11, dans un instant direction Farino où se tient la fête du verre de Bancoul.
Saviez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Du producteur au consommateur, King Banana vous propose ses fruits et légumes, salades, concombres, bananes et bananiers. Appelez Thierry au 94 63 44 ou au 95 16 53.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'Info Weekend avec vous, Morgane.
Et la 36e édition de la fête du verre de Bancoul qui s'est ouverte ce matin à Farino. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour découvrir cette spécialité culinaire qui, malgré son aspect repoussant, est bon pour la santé, selon Ghislaine Harly, la présidente de l'association du marché de Farino.
On peut goûter le verre, ça a le goût de noisette, donc pourquoi pas. C'est un challenge, c'est très riche en protéines. À une époque, les populations les consommaient, donc c'est très riche en protéines. Donc en plus, voilà, ça va vous nourrir.
Simon est, lui, le grand vainqueur du concours de fouillage animé par Ghislain Santacros. Et visiblement, la récolte a été bonne.
1, 2, 3, allez, c'est parti. Voilà. Oh, attention, le petit mec. Alors là, il y a un défi entre le père et le fils. Avec la baramine, il se défend, puis il en a plein déjà. Oh, c'est une bonne récolte.
45, mon collègue 44, donc non, ça s'est joué un peu. Et non, c'est la première fois que je fais ça et c'est vraiment une bonne ambiance. On avait hâte d'être là et s'inscrire et on en a parlé hier et voilà, c'est fait, on a gagné. Les verres, j'en ai goûté un, le premier, et puis après, bah, c'est vrai que c'est un peu caoutchouteux à la fin, c'est comme un chewing-gum, mais bon, ça va, ça se mange.
Ah, puis là, on claque, ton foiré, putain!
Après la récolte, il y a eu le concours de bouffage de verre cru. Et pour les moins téméraires, il est aussi possible de goûter le verre de Bancoul cuisiné au pastis ou bien au beurre maître d'hôtel. La fête du verre de Bancoul qui se poursuit jusqu'à 15h à Farino. À Nouméa, c'est le grand jour pour la kermesse de la cathédrale Saint-Joseph. L'affluence était forte ce matin à la sortie des messes du dimanche. Le reportage de Mickaël Juneski.
Donc c'est la kermesse de la cathédrale qui a lieu une fois par an. Nous sommes très enchantés de vous recevoir.
C'est bien, je sais pas, c'est la première fois que je viens aussi. C'est sympa.
C'est l'église à nous et puis c'est la fête aussi de pouvoir aider les gens.
Vous avez trouvé votre bonheur, c'est ça?
C'est ça, c'est du bougna marmite. Ça va être bon ça.
Bah, moi c'est la première fois que je viens à cette kermesse, mais...
C'est bon surtout pour la cathédrale, quoi.
C'est une fois par an, donc voilà. C'est bien, il fait beau. C'est l'occasion, voilà, de rencontrer des gens qu'on connaît, de partager des bons moments.
Ben, c'est bien, ça nous profite parce qu'il fait beau. On apporte quelque chose pour aider à la cathédrale.
Père Roca Bikawa, vicaire général du diocèse de Nouméa, un grand jour, cette kermesse de la cathédrale, c'est un plaisir à vos yeux?
Oui, c'est un plaisir parce que c'est d'abord une fête du partage et de la solidarité, de permettre aux uns et aux autres de se retrouver. C'est vital parce que ça nous sort de nous-mêmes et puis nous fait nous rencontrer les autres. Je garde à l'esprit les mots de ce jeune après le passage du président de la République au service, les ont interviewés et il a dit: on ne boit pas assez café les uns chez les autres. Et une rencontre, c'est l'occasion de boire café ensemble.
Nous sommes enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons un beau temps avec du soleil et profitez-en.
L'événement qui continue cet après-midi avec des stands installés sur le parvis de la cathédrale. Une pause bien-être au parc Brunelet de Nouméa avec le Spirit Festival. Les festivités se poursuivent ce dimanche. De nombreuses associations sont présentes pour présenter leur activité. L'occasion pour les curieux de découvrir également de nouvelles activités comme la danse intuitive.
De la danse intuitive, c'était bien, c'était relaxant, c'était libre, ouais. Pas trop de mouvements imposés, quoi.
C'était vraiment assez bien, on a été bien accompagnés, la musique était douce, le concept est assez intéressant, on passe par différentes étapes. Vraiment, je recommande.
J'ai vu l'événement sur Facebook et puis c'est pas la première fois que je le fais, donc du coup ça m'a intéressée. Que ce soit pour la nourriture, pour le yoga, pour séance de relaxation.
C'est dans un lieu très agréable, il fait beau, c'est très varié, il y a beaucoup d'objets, enfin, beaucoup d'artisanat. Il y a de belles énergies qui se dégagent de cet endroit, donc j'aime bien venir, oui.
Des stands de restauration et d'artisanat sont aussi installés. Vous pouvez profiter des cours et des animations jusqu'à 17h au parc Brunelet. En bref, autre idée sortie, le Ciné City qui fête ses 111 ans ce week-end. Une exposition retraçant l'histoire du cinéma est installée dans le hall et des tarifs réduits sont proposés. Enfin, le salon de l'immobilier et de l'aménagement a fermé ses portes à midi. Il se déroulait durant 3 jours à la salle Venezia du Nuvata à Nouméa. Selon les organisateurs, plus de 2000 personnes ont fait le déplacement durant ces 3 derniers jours. Il s'agissait de la première édition de cet événement. Il est midi, passé de 17 minutes. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Journal des sourds et des malentendants. Journal des sourds.
Vous entendez mais vous ne comprenez pas. Vous faites répéter souvent. Vous montez le son de la radio. Vous êtes gêné en milieu bruyant. Faites évaluer votre audition. Maud Estrade, audioprothésiste diplômée d'État, vous accueille au centre de l'audition. Le centre de l'audition vous prête gratuitement des aides auditives afin de choisir la technologie la mieux adaptée à vos besoins. Centre de l'audition, 19 quai Jules Ferry, un téléphone 27 30 50.
La publicité que vous venez d'entendre aurait pu être la vôtre. Avec, sur RRB, un effet assuré et un impact garanti. N'attendez plus, contactez le service publicité au 25 46 46. Merci aussi de votre soutien. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Decathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Decathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et ce qui fait la une de l'actualité sportive, c'est évidemment le mondial de rugby.
Les pages spéciales Coupe du monde de rugby 2023 avec Dynatech, votre partenaire installation photovoltaïque de lampadaires solaires autonomes et Elumelec. Elumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA du COS.
Allez, encore une large page consacrée au rugby et au lendemain de la victoire du 15 de France sur la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture hier 27 à 13. Quatre autres rencontres étaient au menu hier soir et ce matin. Avec le point, on fait le point avec vous, Michael Juneski.
On va commencer par la toute dernière affiche ce matin, Angleterre-Argentine. Et à l'arrivée, les Anglais qui l'emportent, même en infériorité numérique depuis la troisième minute de jeu. Ils s'en sont remis à la botte du demi d'ouverture. George Ford, le remplaçant d'Owen Farrell, royal au pied pour sauver le 15 de la Rose, contre des Pumas trop indisciplinés. Succès donc 27-10, 6 pénalités, 3 drops, tous au crédit de Ford. Pour le reste des résultats, la logique a été respecté dans la poule A. Sans surprise, les Italiens ont dominé la sélection de Namibie sur le score de 52-8. Un large score qui permet aux Italiens de prendre la tête du groupe pour un point de mieux que le 15 de France. Dans la poule B, l'Irlande qui a parfaitement géré son premier match festival face à la Roumanie, 82-8 pour les Irlandais. Pas moins de 12 essais. Un Jonathan Sexton en forme face à une équipe qui disputait son tout premier match en Coupe du Monde. Dans la poule C, enfin, l'Australie qui a battu la Géorgie sur le score de 35-15. Les Wallabies qui ont dominé dans le jeu seront pour autant montrer beaucoup de choses contre une modeste sélection géorgienne qui a tardé à se réveiller. Des points précieux de prix pour les Australiens qui auront encore à affronter dans leur poule les Fidji ou encore le Pays de Galles.
Et nous sommes avec Pierre Forest, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de la Ligue calédonienne de rugby. Vous êtes l'un de notre consultants pour ce mondial. Qu'est-ce que vous avez pensé des matchs de la nuit? Pas trop fatigué déjà parce qu'il y avait il y avait 4 matchs à regarder.
Oui, c'était bon. On n'a pas regardé les 4 matchs, mais quand le premier commence à 22h, il se termine à peu près vers minuit, et il y en a un autre qui démarre à ce moment-là. Mais bon, on arrive quand même à. Quoi dire des matchs cette nuit?
L'Italie, notamment, c'est le groupe de la France.
Le groupe de la France.
Il n'y avait pas vraiment de surprise.
C'est une victoire logique des Italiens qui sont normalement, en compte tenu du classement, ils sont en troisième position de la poule. Il faudra quand même se méfier de cette équipe d'Italie, puisque la France devra la rencontrer en dernier match de poule. Donc, ça aurait été un match décisif si la France avait perdu hier contre les Blacks, mais ce n'est pas le cas. Donc là, le prochain match après l'Italie, ça sera les All Blacks. Ça sera intéressant de voir d'abord comment les Blacks ils ont récupéré du match contre la France et les Italiens sur cette, évidemment, lancée. Premier de la poule avec le bonus offensif, oui, ça va valoir le coup, oui.
Donc une victoire logique de l'Italie. On a également regardé l'Angleterre quand même, parce qu'on avait quelques interrogations sur ces Anglais. Ils ont fait le job à 14 contre 15.
Alors moi, j'en avais fait l'Argentine le favori de cette poule, puisqu'on l'avait vu ces derniers temps, l'Angleterre avait pris une rouste mémorable contre les Fidjiens. Par ailleurs, l'Argentine avait fait un très bon tournoi de l'hémisphère sud, en ayant battu l'Australie justement, en ayant fait jeu égal pratiquement, en mettant en difficulté les All Blacks. Et puis là, ça a été un match bizarre. Donc autant les Anglais se sont comptés du minimum, puisqu'ils ont fait faire des fautes. Et donc, grâce à la botte, comme vous l'avez dit, de John Ford, qui a enquillé 3 drops et 5 pénalités. Donc tous les points étaient marqués au pied. Et puis on avait en face une Argentine qui était complètement amorphe et qui n'a cessé de faire que des fautes. En mêlée en plus, qui était quand même leur point fort, la bajadita, comme on dit, la mêlée argentine, avec les appuis inversés. Mais là, on n'a pas compris. On aurait dit c'est une équipe qui errait sur le terrain. On avait pensé qu'avec l'expulsion du troisième ligne anglais en tout début de première mi-temps quand même, puis non, il n'y a rien qui s'est fait. Donc c'est une surprise, non pas la victoire de l'Angleterre, mais la surprise c'est plutôt le non-match de l'Argentine, qui est quand même favorite de cette poule et qui... On avait parlé de poils à gratter pour toutes les équipes à partir de quart finale. Il va falloir qu'elles se ressaisissent.
Alors, dans les autres résultats, Mickaël en a parlé. En quelques mots, l'Irlande et l'Australie, là, c'était vraiment des matchs de mise en jambe, si j'ose dire.
Alors, l'Irlande a voulu marquer le coup, évidemment, comme étant un favori pour la victoire finale et surtout dans la poule 2 avec l'Afrique du Sud. Donc, les pauvres...
Roumains,
qui vraisemblablement sera l'équipe... la plus faible avec le Portugal. On va voir comment ce sont des équipes de seconde zone au niveau européen. Donc malheureusement, ils ont pris la tôle, comme on dit. Donc victoire logique de l'Irlande et puis
l'Australie.
De l'Australie également, avec quand même j'ai regardé un tout petit peu, il y a quand même une belle opposition de la
Géorgie.
De la Géorgie, qui a des joueurs qui évoluent en métropole, la plupart. Et puis qui a une bonne, en termes de conquête, en phase de conquête, que ce soit dans les mêlées fermées et puis dans les touches, qui a quand même. Voilà, donc c'est un peu peut-être tôt dans cette poule avec l'Australie, la Géorgie. vie. On verra avec cette nuit, il me semble, demain matin plutôt, dans cette poule, il y aura le choc Pays de Galles contre Fidji, me semble-t-il.
C'est ça,
donc,
exactement.
Donc on verra à ce moment-là. Et quand l'Australie aura rencontré le Pays de Galles et les Fidjiens, qui sera un peu les favoris de cette poule.
Alors justement, Pierre Forest, dans la poule C, demain le Pays de Galles affrontera Fidji à partir de 6h. Fidji peut créer la surprise ?
Ah oui, oui, moi je miserais une pièce sur les Fidjiens, au vu des dernières confrontations. Hein, ils avaient atomisé les Anglais chez eux. Bon, ce n'est qu'un match amical, hein, on va dire, mais ça donne quand même une indication assez sérieuse. La plupart jouent en top 14, hein, que ce soit devant et derrière. Le capitaine Radradra, Boutia qui est champion d'Europe avec La Rochelle, troisième ligne. Donc il y a quand même des références dans cette équipe-là. Et puis, le Pays de Galles qui est pas au mieux. Hein, on le voit au dernier tournoi destination, on les a vus que dans les matchs amicaux, ils sont pas au mieux. La génération dorée du Pays de Galles, lors de la dernière Coupe du Monde, elle n'est plus là, il n'y a pas eu de relève, etc. Donc, il va falloir quand même qu'ils attendent la prochaine Coupe du Monde, peut-être, pour retrouver le standing qu'ils avaient. Mais je ne les vois pas du tout battre les Fidjiens. Mais je suis un très mauvais pronostiqueur en même temps, donc comme je l'ai été hier pour l'Argentine contre l'Angleterre.
On suivra ça, effectivement. La suite du programme est encore pas mal hein, pour ce soir, avec à partir de 22h, les Japonais qui défieront les Chiliens pour le compte de la poule D, et puis les Springboks sud-africains qui feront face aux Écossais à partir de 2h45 sur la pelouse de Marseille pour le compte de la poule B. On aura l'occasion d'y revenir. On revient également, Michael Juneski, à l'actualité des Bleus, puisqu'on fait un point sur l'état des troupes après le premier match contre les All Blacks.
Oui, hier, une blessure à la cuisse survenue dès la 12e minute de jeu qui a notamment contraint Julien Marchand à céder sa place, remplacé, vous le savez, par le Calédonien Peato Mauvaka. On en sait un peu plus. Il souffre d'une déchirure sur une hyperextension, un problème musculaire à l'ischio-jambier, avait très vite rapporté le sélectionneur Fabien Galthié. Julien Marchand qui devrait donc être absent environ 4 semaines. Tout de même, hein, Mauvaka devrait endosser le rôle de titulaire pour les prochaines rencontre sur ce laps de temps, selon évidemment le turnover que décidera d'effectuer Fabien Galthié dès vendredi contre l'Uruguay. A l'inverse, ça va mieux pour Jonathan Danti, touché lors du dernier match de préparation contre l'Australie, lui aussi aux ischio-jambiers. Il pourrait être de retour plus vite que prévu, peut-être contre les Sud-Africains, selon Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque des Bleus. Et puis, on parle d'un autre cadre qui pourrait revenir prochainement, Anthony Jelonge, opéré d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, alors qu'il n'avait plus rejoué depuis le mois de février avec les Bleus et le match contre l'Écosse lors du tournoi Destination. Fabien Galthié l'avait gardé dans la liste, un pari peut-être gagnant car le troisième ligne est lui annoncé pour potentiellement être de retour, donc peut-être dès ce deuxième match de la Coupe du Monde. En revanche, encore un peu d'attente pour Cyril Baye, touché au mollet lors de la préparation, il n'est pas encore totalement rétabli. Évidemment, on sait que la Coupe du Monde ne se gagnera pas seulement sur le terrain mais aussi dans la gestion des troupes, avec des conditions de jeu actuellement compliquées en métropole, la forte chaleur. Je vous redonne au passage le programme des Bleus. Vendredi prochain, ce sera contre l'Uruguay, puis la Namibie à Marseille le 22 septembre et l'Italie le 7 octobre à Lyon. Et ensuite, on espère le début des quarts de finale.
Pierre Forest, il y a des retours qui pourront être enregistrés dès ce prochain match.
Je pense que oui, hein, comme l'a dit Michael, Danti aurait pu débuter la partie contre les Blacks, mais ils ont préféré prendre toutes les précautions de ne pas... Il est en forme, donc à mon avis, il va faire sa rentrée contre le Uruguay. Jelonge, ça fait longtemps, il a bien repris, il suit les entraînements, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, donc ils vont peut-être le mettre sur le banc et le faire rentrer peut-être en deuxième mi-temps. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est Julien Marchand. Julien Marchand, vous l'avez dit, 4 semaines, c'est normalement une déchirure musculaire, c'est très embêtant. Pour résorber, pour revenir au top, c'est 4-5 semaines. 4-5 semaines, ça nous amène au quart de finale. Donc là, il y a peut-être une interrogation au niveau du staff tricolore, c'est de savoir si on le remplace par Barlow, qui est le talonneur de La Rochelle, qui est un très très bon talonneur, champion d'Europe. Mais à ce moment-là, Julien Marchand ne peut plus revenir, hein, parce que les effectifs sont limités à 33, donc je pense qu'il devrait... beaucoup d'interrogations de la part. Est-ce qu'il tente le coup de le garder pour le récupérer à partir des quarts et avoir deux talonneurs de très bon niveau, Peato assurant l'essentiel, hein, comme on l'a vu contre les Blacks. Mais voilà, donc c'est un peu le point d'interrogation sur Marchand. Est-ce qu'il va sortir du groupe ou il va rester jusqu'au bout ?
Affaire à suivre. Donc.
Affaire à suivre.
Merci Pierre Forest. On vous retrouvera évidemment demain à 17h dans une semaine formidable pour décrypter tous les matchs qui ont eu lieu ce week-end. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Elumelec. Elumelec, c'est tout le matériel électrique et l'éclairage pour professionnels et particuliers au 7 rue FLA du COS. Plus d'infos sur Facebook ou au 46 54 54. Elumelec, met en lumière la Coupe du Monde de rugby. Les pages spéciales Coupe du Monde de rugby 2023 avec Dynatech. Chez Dynatech, choisissez votre solution en énergie renouvelable. Profitez de la dernière génération de panneaux photovoltaïques. Études et devis gratuits au 27 50 70.
Allez, le reste de l'actualité sportive avec du tennis, Michael Juneski, Coco Gauff qui décroche son premier titre en grand chelem en remportant la finale de l'US Open.
Oui, mené 1-7 à 0 en début de match, l'Américaine a renversé le match en sa faveur pour s'imposer en 3-7, 2-6, 6-3, 6-2 face à la Bélarusse Arina Sabalenka, deuxième joueuse mondiale amenée à prendre la tête du classement WTA dès lundi. Coco Gauff a 19 ans tout juste donc, qui remporte son premier tournoi du grand chelem. Dès demain, l'affiche chez les messieurs Novak Djokovic contre Daniil Medvedev.
Du football également, Mickaël, avec la suite des matchs de qualification à l'Euro.
On signalera notamment ce nul entre l'Ukraine et l'Angleterre dans le groupe C. Un but partout et puis pas mieux d'ailleurs dans la même poule pour les Italiens tenus en échec face à la Macédoine du Nord. Un but partout. On rappellera hier ce carton de l'Espagne en Géorgie, 7 buts à 1, triplé de Morata. La Croatie dans le groupe D a eu raison de la Lettonie, 5-0. Et puis en marge de ces rencontres, une surprise, cette fois en match amical, l'Allemagne qui s'est inclinée contre le Japon. Défaite de la Mannschaft sur le score de 4 buts à 1.
L'Allemagne qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France, ce sera mardi matin pour nous. En cyclisme, victoire de Remco Evenepoel sur la 14e étape du Tour d'Espagne.
Le Belge qui a terminé l'étape en solitaire pour s'adjuger la victoire. Le Français Romain Bardet a réussi à terminer à la deuxième place au classement général. L'Américain Sepp Kuss reste leader de la Vuelta devant ses deux coéquipiers de la Jumbo-Visma, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard.
Les sports mécaniques à présent avec la course sprint au Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP.
Et la victoire qui est revenue à l'Espagnol Jorge Martin devant les Italiens Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia. Le même classement au passage lors des qualifications. Les Français Fabio Quartararo et Joan Zarco ont terminé respectivement 13e et 14e. Le Grand Prix sera à suivre ce soir. Départ à 23h, heure de Nouméa.
Et puis en rallye, Sébastien Ogier a dû abandonner au rallye de Grèce.
Le Français venait pourtant de prendre la tête de l'épreuve sur la deuxième journée jusqu'à une crevaison et un souci mécanique qui l'ont contraint à abandonner, laissant son coéquipier Kalle Rovenpera à prendre la tête. Il reste encore 3 spéciales à courir ce week-end.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Agoro est dans le Grand Sud, c'est le sang.
Le sport en Calédonie à présent avec du rallye également et la 4e manche du championnat territorial qui se dispute ce dimanche.
Ça se passe dans le Grand Sud, 16 pilotes étaient au départ. L'équipage d'Éric Riandet et Romain Leandro est en tête du classement général du championnat de Calédonie. Ils visent la victoire sur Citroën DS3 WRC pour s'approcher du titre. Depuis ce matin donc, 100 km de spécial au programme, ça continue en ce moment même. Les fans de sport mécanique sont conviés au pont des Japonais pour accéder au site de la compétition.
Et à venir également ce soir, les championnats de Calédonie de bodybuilding.
15 athlètes qui seront sur la scène du centre culturel du Mont d'Or pour se confronter dans les différentes catégories au programme. Les enjeux, titre de champion territorial bien sûr, mais également des échéances internationales qui approchent. Roland Chaudet, le président du comité des bodybuilders de Nouvelle-Calédonie.
Au niveau des échéances, déjà la première chose, c'est que le championnat de Calédonie, c'est le dernier des critères qui a été mis en place par le comité pour se qualifier pour les Jeux du Pacifique aux îles Salomon en fin d'année. Et puis à début novembre, ça sera les championnats du monde en Corée du Sud à Séoul.
Voilà les championnats de Calédonie de bodybuilding qui débuteront donc ce soir à partir de 16h au Centre culturel du Mont d'Or.
Merci Mickaël Juneski. Il est midi 33, c'est la fin de ce journal que vous pourrez retrouver d'ici quelques minutes en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. Quant à moi, je vous retrouverai à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Mais tout de suite, c'est le portrait de la semaine. Gilles Ménage le consacre à Yves Mermoux, le président de l'association Témoignage d'un passé.